Voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Mmh. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 24 avril 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Merci de votre écoute. Un record dans la production d'électricité par les centrales à cycle combiné en Iran. Plus de 10 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers les colonies israéliennes. Et 61% des Français exclus de voter pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Les statistiques de production d'électricité des centrales thermiques de l'Iran montrent qu'entre avril 2020 et avril 2021, grâce à la mise en service de la section vapeur des 7 nouvelles centrales électriques du pays, le secteur d'énergie d'Iran a brisé le record de la production d'électricité dans le domaine des centrales à cycle combiné en tant que groupes électrogènes respectueux de l'environnement. La conversion des centrales à gaz en cycle combiné est l'un des moyens d'améliorer l'efficacité des centrales thermiques du pays. Cela est fructueux non seulement pour le rendement de l'industrie de l'électricité, mais aussi pour la protection de l'environnement et la réduction de la consommation de carburant. D'après ce mécanisme, en plaçant une turbine à vapeur de 160 MW le long de deux turbines à gaz de 159 MW et en formant un bloc de cycle combiné sans avoir besoin d'une consommation de carburant supplémentaire et en bénéficiant de la chaleur récupérée lors du premier cycle de production d'électricité, le rendement de la centrale augmente environ 34% après de 50%. Entre mars 2020 et mars 2021, 343 millions de mégawatts d'énergie ont été générés dans toutes les centrales électriques de l'Iran, thermiques, hydrauliques, nucléaires et renouvelables, dont la part des centrales thermiques, chauffage, gaz, cycle combiné était de plus de 314 millions de mégawatts. Entre mars 2020 et mars 2021, 92% des besoins en électricité de l'Iran ont été fournis par des centrales thermiques. La production de ces unités a augmenté de plus de 9% par rapport à l'année dernière du calendrier persan. Selon les responsables du ministère d'Énergie, la capacité de centrales thermiques sera augmentée encore de 69 000 MW au mois de juin et après la fin des réparations techniques. Trois missiles ont été tirés vendredi soir depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. L'un des missiles a été intercepté par le bouclier antimissile israélien Dôme de Fer et les deux autres se sont abattus près de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, a prétendu l'armée israélienne. Après ces tirs, sept nouveaux missiles ont été lancés depuis Gaza vers le sud d'Israël. Les sirènes d'alarme ont retenti au moins quatre fois dans les colonies de Kisofim, Rahim d'Eshkol, situé autour de la bande de Gaza. Selon les médias israéliens, des groupes de résistance palestiniens ont tiré 17 missiles sur Israël ces dernières heures. Les brigades du martyr Abou Ali, la branche militaire du Front populaire pour la libération de la Palestine, ont revendiqué ces attaques aux missiles. Par ailleurs, des centaines de colons israéliens appuyés par les militaires du régime de Tel Aviv ont attaqué des Palestiniens dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 avril dans plusieurs quartiers de la ville Sainte-Rotz. Le nombre de blessés palestiniens a dépassé les 115 personnes. À la suite des affrontements les plus violents de ces dernières années à Rotz, la branche militaire du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, le Hamas, a apporté son soutien vendredi aux Palestiniens de Rotz sous forme de mise en garde à Israël. Rappelons que le Hamas et Israël se sont affrontés directement 3 fois entre 2008 et 2014. Les commandants de l'armée syrienne et les commandants des miliciens kurdes se sont réunis pour trouver une solution menant à l'apaisement des tensions. Réunis ce vendredi 23 avril à l'aéroport de Ramishli, sous la médiation de la Russie, les commandants en question ont examiné les origines des affrontements entre les deux parties à Ramishli, dans la province de Rasaké, et les solutions pouvant mettre fin à ces conflits. D'intenses affrontements ont éclaté ces derniers jours à Ramishli, opposant les forces de défense nationale au FDS, Force démocratique syrienne. À noter que des unités de l'armée syrienne sont passées à l'acte pour donner un coup de main aux forces de défense nationale. Selon les sources locales, les affrontements ont éclaté lorsque les miliciens kurdes ont lancé une offensive pour couper le quartier de Aretay, non loin de l'aéroport. Dans la foulée, la tribu Tay a annoncé dans un communiqué qu'il fallait combattre les FTS, soutenus par les occupants américains. Il y a 2 jours, la Russie est passée à l'acte pour assurer une médiation entre les deux parties et les a convaincus à s'asseoir à la table des négociations pour conclure un cessez-le-feu. Les FTS et les forces de défense nationale syriennes ont entamé leurs négociations vendredi soir, alors que les effectifs de la police militaire russe ont été déployés dans les quartiers de conflit. À Ramishli, de nombreux habitants ont été forcés de quitter leur domicile. La ville est contrôlée en même temps par les forces de défense nationale et les miliciens kurdes. L'aéroport de Ramishli et le centre-ville sont sous le contrôle des forces de défense nationale. Une nouvelle attaque a été menée par les forces armées yéménites contre la base aérienne saoudienne de King Khaled à Ramis Mushait. Le général de brigade Yahya Sari, le porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé ce vendredi 23 avril une nouvelle attaque contre la base aérienne de King Khaled dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Le général Sari a déclaré que l'unité de drones de l'armée yéménite avait de nouveau ciblé la base aérienne de King Khaled à Ramis Mushait avec un drone de type Rasif K2 lors de l'attaque. Une position militaire importante a été visée avec précision, a-t-il fait savoir. Il a ajouté que cette attaque était une réponse légitime aux agressions continues et au blocus imposé contre le Yémen par l'Arabie saoudite. Cela intervient alors que le général de brigade Yahya Sari avait annoncé plus tôt ce vendredi matin que l'armée yéménite avait visé la compagnie pétrolière saoudienne Aramco et la base de King Khaled à Ramis Mushait avec 3 drones. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, publié le vendredi 23 avril, 6 Français sur 10 ne voteraient pas pour Emmanuel Macron s'il se présentait à la présidentielle. Sa cote de popularité, pourtant, n'est pas si mauvaise. Un an de la présidentielle, les sondages se font de plus en plus nombreux. Et celui publié ce vendredi 23 avril par RTL et Orange, réalisé par BVA, n'est pas en faveur du président sortant. Selon lui, 6 Français sur 10, 61%, exclus de voter pour Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 s'il se représente. Parmi les moins enclins à lui accorder leur vote figurent en particulier les personnes entre 35 et 64 ans et les sympathisants de la France insoumise et du Rassemblement national. À l'inverse, 11% disent être certains de voter pour lui et 28% que c'est possible. Après 4 ans de mandat, les Français sont 59% à estimer qu'Emmanuel Macron est un mauvais président contre 40% qu'il est un bon chef de l'État. Son action est perçue comme plutôt un échec en matière d'immigration pour 68% des personnes interrogées, de sécurité 66%, de pouvoir d'achat 64% et d'emploi 62%. Après avoir beaucoup souffert au cours de la première année de mandat, son image a toutefois globalement peu changé depuis. Il est d'abord perçu comme ayant des convictions profondes, 52% moins 2 points, comme étant solide, ayant de l'autorité, 45% plus 2, et une stature présidentielle qui valorise la France, 43% plus de 2 points. Mais on lui reproche aussi toujours d'être trop sûr de lui. Seuls 25% des Français, moins 5 points, considèrent qu'il est capable de reconnaître ses erreurs. Les combats dans la région éthiopienne du Tigré limitent les effets de la réponse humanitaire et créent une situation incertaine dans un contexte pénurie d'eau critique, ont indiqué vendredi des acteurs humanitaires de l'ONU. La situation humanitaire dans le Tigré en Éthiopie reste incertaine, avec des affrontements armés signalés dans certaines zones, notamment autour d'Abiy Adi dans la région centrale, ce qui restreint les mouvements et la réponse humanitaire, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Il y a des pénuries d'eau critiques dans la plupart des parties de la région. Les partenaires humanitaires de l'organisation et le gouvernement régional déploient 123 camions-citernes destinés à plus de 288 000 personnes dans la région, notamment dans la ville de Mekele et dans la ville de Shire, a précisé le CHA. D'après les récentes évaluations des besoins, 285 camions-citernes sont nécessaires au cours des 3 prochains mois. Le gouvernement a signalé l'arrivée de 75 000 personnes récemment déplacées dans la ville administrative centrale de Shire au cours de la semaine dernière, ce qui porte le nombre de personnes déplacées à Shire à près de 500 000. Alors que la plupart des personnes déplacées vivent avec les communautés d'accueil, les autres se trouvent dans 15 sites, dont la plupart n'auraient reçu aucune assistance au cours des 2 ou 3 derniers mois, ont indiqué les acteurs humanitaires. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Un seul missile balistique tactique a fait éclater en 1000 morceaux le mythe du dessin multicouche d'Israël. Le missile qui a failli pulvériser le réacteur de Dimona avec son ogive de 200 kg, comme l'a fait remarquer Lieberman, a mis KO le système Arrow d'Israël. Et pourtant, cela fait 3 ans que l'entité bassine les oreilles du monde entier sur de supposées capacités d'interception de son Arrow. Le missile tiré depuis la Syrie en direction de la ville de Dimona, près du désert Negev, a révélé ce qu'était le talon d'Achille du régime sioniste. Les systèmes antimissiles du régime sioniste ont été incapables d'intercepter le missile syrien de type S-200. Le missile qui aurait été tiré depuis la Syrie en direction du désert du Negev dans les territoires occupés a provoqué une explosion si forte que les habitants de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée l'ont entendu et ont indiqué que leur maison avait été secouée, a rapporté le journal Al-Akhbar. Le compte-rendu officiel de l'incident publié par Israël est rempli d'éléments contradictoires qui soulèvent de nombreuses questions sur les auteurs de l'attaque, le type de missile, mais surtout l'incapacité du système antimissile israélien à l'intercepter, a fait noter le journal. Retiré tout de suite après leur publication du site officiel de l'armée israélienne, mais publié par les médias sionistes, les communiqués de l'armée israélienne affirment pour l'un que le missile tiré par le système antimissile n'a pas réussi à atteindre ni toucher le missile syrien de type S-200 et pour l'autre que le missile syrien a atterri sur les territoires occupés sans jamais être intercepté par les systèmes antimissiles israéliens. Ce qui montre que l'armée du régime sioniste a eu 2 récits contradictoires sur une attaque au missile qui semble avoir été menée depuis le territoire syrien. alors que Benny Gantz, ministre israélien des Affaires militaires, a fait état du lancement d'une enquête sur la non-interception du missile syrien, un expert militaire des médias sionistes cité par le journal Yediot Aharonot prétend que les explosions entendues dans la région d'Al-Quds ont été causées par des missiles intercepteurs. Bien qu'ils soient publiés distinctement, les deux communiqués de l'armée sioniste aboutissent au même résultat. L'échec des systèmes antimissiles israéliens lors de l'interception d'un missile venu d'un endroit quelconque, quelle que soit la raison, faille technique ou erreur humaine. Cependant, la deuxième version des faits livrée par l'armée israélienne sur l'inaction du système antimissile au moment de l'attaque est le signe d'un échec plus grave. Un système antimissile a pour mission d'intercepter le missile et d'activer les sirènes dans la zone censée de l'atterrissage. De son côté, la chaîne 13 de la télévision israélienne, citant l'armée de ce régime, a rapporté que selon les résultats préliminaires de l'enquête sur l'incident dangereux, un missile solaire a été tiré depuis le territoire syrien et a atterri dans des zones ouvertes dans le désert du Negev, près de la ville de Dimona. Le missile n'a pas du tout été intercepté. Dans une interview à la radio FM 103 du régime sioniste, le maire de Dimona, Benny Beton, a déclaré « Malgré tous les outils de support, nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que tout peut atteindre Dimona. » Réagissant au tir du missile, Avigdor Lieberman, chef du parti Israël Beitenu, a annoncé l'effondrement du pouvoir dissuasif d'Israël tout en accusant Netanyahou de s'endormir en regardant ce théâtre. Mettant en garde que la situation catastrophique à laquelle est confronté le régime sioniste ne se limite pas à un missile avec une ogive de 200 kg, Lieberman a appelé le Parlement israélien à briser le silence, mais aussi à convoquer une réunion urgente pour discuter du niveau de préparation des instances sécuritaires face à l'escalade des tensions avec la Syrie et l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cette récence des événements qui se sont produits en fait à l'intérieur d'Israël. Si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte, une forte explosion s'est produite dans l'une des usines d'armement du régime israélien où on fabriquait des moteurs de missiles. Les autorités israéliennes ont tout fait pour minimiser ces événements, mais cette forte explosion, en fait, a été largement relayée, surtout dans sur des réseaux sociaux. Et il y avait également ce tir de missiles depuis le territoire syrien. Ce missile qui s'est abattu près de la centrale nucléaire de Dimona. Et cela a suscité, si vous voulez, un état de panique au sein des autorités israéliennes, à tel point que le porte-parole de l'armée israélienne a reconnu ouvertement l'échec de la DCA de l'armée israélienne. Il a dit que voilà, la DCA de l'armée avait échoué à intercepter ce missile tiré depuis le territoire syrien, le missile qui s'est abattu. Il faut en fait mettre l'accent sur ce point tout près de la centrale de Dimona. Et dans le même temps, Abdelbari Atman, rédacteur en chef du journal en ligne à Rayal Yaoum, a déclaré tout en faisant son commentaire sur ce tir de missile contre le régime israélien, le tir de missile qui s'est abattu près de la centrale de Dimona, a dit que voilà, cela montre que la patience stratégique de la résistance était arrivée à bout. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, de Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
vous. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité. Toujours un plaisir.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître de Volée, c'est une analyste franco-syrienne qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssa Armidani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Merci de votre invitation. Bonjour à vous, à l'équipe TV et à Monsieur de Volée.
Madame Midani, je viens de lancer le sujet. C'est récent, si vous voulez, des développements qui se sont produits en fait en Israël. Cette explosion dans cette usine importante et sensible de fabrication d'armements, également ce tir de missile tiré depuis le territoire syrien qui s'est abattu en fait tout près de la centrale nucléaire de Dimona. Et permettez-moi de faire cette en fait précision que ce tir de missile a eu lieu suite à une agression israélienne, à une nouvelle agression israélienne contre le territoire syrien. Madame Midani, votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, c'est effectivement, ce sont les faits qui montrent d'abord qu'aujourd'hui, la patience stratégique a atteint un certain point qui permet aujourd'hui de riposter et du tac au tac. Les agressions israéliennes se sont multipliées contre la Syrie, mais aussi on peut rappeler quand même cette agression contre la centrale nucléaire de Natanz. On peut rappeler l'agression israélo-américaine contre l'est de la Syrie. Donc là, effectivement, la riposte de l'axe de la résistance vient pour dire haut et fort. D'abord, la centrale de Natanz a des remises en route et au contraire, la salle qui était touchée a vu tous ces réacteurs renouvelés, tous ces appareils renouvelés avec la nouvelle génération. Immédiatement, l'augmentation de l'enrichissement d'uranium à 60% a été aussi la riposte importante. Et puis, à peine quelques jours plus tard, donc cette explosion dans la fabrique des missiles israéliennes, c'est une grosse explosion, en fait, hein, qui a détruit pas mal de choses et que les Israéliens ne daignent pas reconnaître ou essayent de ne pas reconnaître pour pas créer de panique. Hein. Et donc la riposte syrienne avec ce missile aussi qui est tombé à quelques kilomètres de Dimona, qui est un grand message, je dirais, de l'axe de la résistance à Israël, qui montre à quel point, qui leur dit, vous êtes très fragile, vous avez intérêt à ne pas trop... vous prévenez d'une part de votre force, de ne pas agresser. De toute façon, ce que vous présentez comme étant une grande protection, ce dôme d'acier, les différentes protections sur la frontière nord de la Palestine occupée, donc elles ont là, ce missile, a traversé toutes ces barrières. Il n'a pas été détecté. Il est arrivé à quelques kilomètres de Dimona. Nous, on veut pas faire la grosse explosion atomique nucléaire, mais c'est une mise en garde assez forte, je dirais, à Israël et les alliés d'Israël dans la région aussi. Qui se pavanent aussi de leur force et de leur capacité à mettre à genoux le peuple syrien et tous les pays et tous les pays de l'axe de la résistance. Donc en fait là c'est vraiment une riposte qui met les points sur les i. Ajoutez aussi au discours ferme du président Poutine en ce qui concerne les agressions. Les ingérences américaines et les agressions israéliennes. Donc, je voudrais ajouter aussi un point qui est très important dans cette série d'événements, c'est la création d'un comité mixte iranien, syrien et russe pour briser l'encerclement de la Syrie, briser l'embargo contre la Syrie, en mettant en place donc ce comité de protection des convois d'aide à la Syrie, d'aide en produits pétroliers, en céréales, etc., et qui seront protégés par des bateaux de guerre russes. Et donc, ça, c'est aussi un point important qui permet de dire, donc on met fin aussi à cet encerclement de la Syrie, à cette tentative d'affamer le peuple syrien pour le mettre à genoux et pour qu'il accepte le diktat américain et qu'il accepte aussi qu'il y ait de protéger Israël, etc. Et que Israël a intérêt à se tenir tranquille dans tout ça parce que les prochaines ripostes seront beaucoup plus importantes et peut-être destructrices totalement de cette entité d'occupation.
Merci beaucoup. Maître de Volée, vous êtes à Damas, vous suivez en fait de près ces événements. Est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Mme Midani, que en fait ces récents, si vous voulez, développements, très particulièrement ce tir de missile qui s'est abattu à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Dimona, a été, pour reprendre l'expression de Mme Midani, un message de l'axe de la résistance au régime israélien et à ses alliés, autrement dit, une mise en garde de l'axe de la résistance au régime israélien et à de ses alliés, très particulièrement les États-Unis.
Et écoutez, je pense qu'il faut prendre cet épisode dans le cadre d'un contexte qui voit des élections présidentielles avoir été annoncées et qui auront donc lieu le 26 mai, ce qui politiquement est un marqueur extrêmement significatif, c'est-à-dire qu'après une campagne de 10 ans visant à démanteler l'État syrien et à donc, poursuivre cette stratégie régionale de fragmentation, les tentatives en question ont échoué de manière cuisante. Et donc, au-delà de cet état de fait, il y a aussi le fait que les sanctions sous le régime de la loi César, qui avaient pour but de sectionner les différentes composantes de la résistance afin que l'axe américano-sioniste puisse gérer ces différentes composantes de manière séparée et adaptée au contexte particulier, effectivement, et comme Mme Milani l'a souligné, les alliés de l'axe de la résistance plus la Russie se sont maintenant mis d'accord pour créer une synergie qui permettrait de contourner, à l'instar de ce que la République islamique d'Iran avait fait au mois de mai dernier avec le couloir maritime jusqu'au Venezuela, une alternative qui permettrait à cette stratégie de siège d'être complètement rendu caduque. Donc, dans ce contexte-là, nous avons effectivement les tentatives israéliennes d'essayer de provoquer l'Iran, créer des incidents qui mettraient à mal les discussions qui ont lieu actuellement à Vienne, et ceci sans préjuger du mérite de ces décisions, de ces processus de négociation, en eux-mêmes, mais en tout cas, c'est quelque chose que les Israéliens ne voient pas d'un très bon œil du tout. Ce qui fait que, en fait, tout semble en fait se s'écrouler en ce qui concerne les objectifs israéliens. À telle enseigne que, alors même que depuis maintenant au moins le plus mois de juin 2020 et l'installation des Corbat 3 aux frontières syriennes, il est impossible maintenant pour l'aviation israélienne de pénétrer l'espace aérien syrien. Ces derniers, en dépit de leur impuissance, continuent à régulièrement effectuer des raids aux missiles balistiques sur la Syrie. Sauf que cette fois, et sur ce point précis, l'armée syrienne a rétorqué, et c'est sur la base d'un missile S-200, qui est un missile qui, même s'il a pu subir des modifications, situation nous ramène quand même à l'époque soviétique. Hein, donc, on ne parle pas des tout derniers missiles, des derniers cris, hein, dont l'Iran a le secret maintenant, que les Américains eux-mêmes, par le pied de McKenzie, ont reconnu encore il y a à peine 24 heures, a réussi effectivement à percer le dôme de fer, la couche multicouche, le système multicouche anti-aérien israélien, financé à raison de plusieurs milliards de dollars sur le contribuable américain, j'ose souligner. Et alors même que le secrétaire de la défense américain Austin était venu il y a quoi une dizaine de jours pour inspecter un petit peu le dispositif, le système, et qui laisse entendre maintenant que si un S-200 peut perforer ce système dit imprenable, vous pouvez imaginer qu'avec les centaines de missiles qui maintenant encerclent littéralement l'entité sioniste, ce genre d'action maintenant révèle que les capacités ne sont pas celles qui ont été mises en avant, que l'intoxication portant sur une supposée invisibilité de l'État sioniste et une supériorité militaire à tous les niveaux dans la région, c'est pareil, c'est complètement mis à l'eau maintenant. Et qui plus est, ça laisse entendre au sein de l'opinion publique israélienne que leurs dirigeants sont prêts à prendre des risques avec leur sécurité, puisqu'après tout, et l'Iran est bien placé pour en parler, c'est que le terrorisme nucléaire, qu'il soit effectué au travers d'explosifs ou d'attaques cybernétiques, quand il s'agit d'une installation nucléaire, peut mener à des résultats extrêmement graves, avec des contaminations à grande échelle. Et il sera intéressant, à l'aune de ce constat, de voir maintenant comment l'opinion publique israélienne, et surtout certains des dirigeants israéliens, pour peu qu'ils soient cohérents avec la charge qu'ils devraient avoir de leur population, vont réagir à cet état de fait.
Madame Midanit, selon Maître de Volley, tout s'est écroulé en ce qui concerne les objectifs des Israéliens. Monsieur de Volley, qui vient d'insister sur ce point également, que en fait un seul missile est tiré depuis le territoire syrien et est arrivé en fait à perforer ce système de défense aérienne israélien pour en fait lequel des milliards de dollars avaient été dépensés, mais ce système s'est avéré, si vous voulez, totalement inefficace face à un missile quand même d'une ancienne génération. Maître de Volley vient en fait de décrire la situation où en fait des centaines ou bien des milliers de missiles, surtout de fabrication iranienne, s'activeraient, si vous voulez, contre le régime israélien, Madame Midani.
Tout à fait. En fait, ça montre, cet épisode montre à quel point Israël, qui se pavane en disant on est la force la plus indomptable et la plus invincible du monde ou du Moyen-Orient, en fait, là, ça montre à quel point cette défense est fragile et presque inexistante face aux forces de la. Force de l'axe de la résistance, d'une part. D'autre part, ça montre aussi les mensonges qu'ils perpètrent face à la population, à leur population, disant on est fort, on peut être protégé. D'ailleurs, ce qui explique l'état de panique de la population, mais pas seulement, mais aussi les accusations que se sont envoyées les différents membres du gouvernement en place de l'entité sioniste qui, entre Benny Gantz qui envoie des accusations à Netanyahou, l'accusant de mettre en danger la sûreté, la sécurité d'Israël pour des fins personnelles et pour des combats personnels et politiques, entre Lieberman qui est en fait le plus très jusqu'au boutiste, je dirais, au niveau sioniste, qui a exactement dit toute notre défense a été écrasée par cet événement, Et en fait, donc, il y a des cris d'alarme au sein de la, au sein des, du gouvernement israélien et au sein des officiels, mais aussi le fait qu'il y ait eu au niveau de la communication, au niveau de l'information concernant ces faits qui ont commencé par être complètement contradictoires, qui disent non, c'est arrivé à non, c'est pas un missile syrien, non, c'était un missile comment dire sol-air qui s'est glissé, qui n'avait pas bien visé son but et qui est tombé là par hasard, etc. Donc ces contradictions, cette volonté de cacher à la population, mais qui n'ont pas pu cacher longtemps, etc. Même d'ailleurs l'explosion de l'usine de fabrication de missiles, aussi de moteurs de missiles, elle a été cachée à la population en disant oh c'était un petit une petite erreur technique, etc. Donc tout ça, ça montre à quel point il y a une grande fragilité et puis en même temps il y a aussi une gêne politique un schisme qui se crée au sein de l'entité sioniste, hein, mais de leur propre pouvoir.
Merci.
À tel point d'ailleurs, il y en a un qui a dit, Benny Gantz, il a dit, bah, ils vont arriver à vider notre pays sans tirer aucune bombe.
Merci beaucoup, Maître de Volit. Madame Midani vient en fait d'évoquer ce point, que l'état de panique au sein du régime israélien est tellement, si vous voulez, important et à tel point que, en fait, les autorités israéliennes ont tout fait pour cacher, si vous voulez, cette explosion produite dans cette usine de fabrication de missiles, d'une part, et d'autre part, elles ont commencé à s'accuser mutuellement, Maître de Volit.
Oui, tout à fait. C'est un régime aux abois, de toute façon. Hein. Et on peut le voir à l'aune des événements de ces deux derniers jours, avec des disputes en interne, des récriminations. On voit très bien qu'en fait, la dernière de leur occupation, c'est la protection de leur population. Tout est une question d'opportunisme politique, même si cela doit passer par de l'aventurisme militaire, alors même que maintenant, plus que jamais, on réalise qu'ils n'ont pas les moyens dans leurs ambitions militairement parlant, si ce n'est de prendre le risque de mettre eux-mêmes l'existence de leur projet en danger, ce qui est complètement suicidaire. Donc, à l'aune des déclarations confuses, contradictoires et effectuées avec zèle, portant effectivement, comme vous le soulignez, sur l'usine de fabrication de moteurs à missiles, alors qu'il aurait mieux valu ne pas communiquer dessous. Or, c'est justement ce qu'ils ont l'habitude de faire quand les choses sont un peu plus sous contrôle. Ils ne communiquent pas, ils ne nient pas et ils n'affirment pas. Mais en tout cas, voilà. Or là, on a vu une effusion de déclarations et de communiqués portant sur une négligence, alors qu'il a pu être observé que l'intensité de l'explosion et la durée durant laquelle cet incendie a eu lieu dans cette usine ne caractérise pas juste une simple explosion ou un simple incident qui porterait sur un test. Donc il s'agit d'autre chose. Plus ils en rajoutent, en fait, plus ils confirment que la version officielle n'est pas la bonne. Il en va de même avec la situation, l'incident, si je puis dire, de ce missile S-200 qui trouve le moyen de parcourir près de 400 km alors qu'il a un rayon d'action de 300. Pour peu que, comme Mackenzie lui-même l'a souligné, ce n'était pas intentionnel de la part de la DCA syrienne, c'est encore pire, un aveu que, en fait, alors même qu'aucune offensive de taille n'a été initié contre le régime israélien, une simple, si je puis dire, réaction sans intentionnalité Mais complètement, l'État israélien en émoi, avec les sirènes autour du complexe nucléaire israélien, qui est le cœur, qui est le joyau, en fait, du complexe militaro-industriel israélien. Donc, en fait, le tigre est un tigre de papier. Et maintenant, le monde avait des doutes sur le sujet. Le doute n'est plus permis maintenant.
Maître Arnaud de Volit, juriste français spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssar Midanit, analyste franco-syrien qui a été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Focus. La sécurité est une préoccupation commune de l'Iran et du Pakistan. Soulignant mercredi la nécessité d'assurer la paix et la stabilité dans la région et en mettant l'accent sur les mécanismes régionaux, le président iranien Hassan Rouhani a souligné la nécessité de sécuriser les frontières communes des deux pays voisins, à savoir l'Iran et le Pakistan, avant d'indiquer « la sécurité est une préoccupation commune des deux pays et le renforcement de la coopération dans ce domaine s'avère vital ». Le président Rouhani a tenu ses déclarations à l'occasion d'une rencontre ce mercredi 21 avril avec le chef de la diplomatie pakistanaise, Shah Mahmoud Qureshi, en visite à Téhéran. Hassan Rouhani a souligné à cette occasion l'importance de la coopération Téhéran-Islamabad en tant que deux pays voisins musulmans. Il a souligné la nécessité de développer et d'approfondir les relations bilatérales dans divers domaines, notamment sur les plans économiques et commercial. Le président Rouhani a également mis l'accent sur le développement et le renforcement des marchés transfrontaliers. Faisant référence à la décision américaine de se retirer de l'Afghanistan, le président Rouhani a déclaré que la présence militaire américaine dans la région n'a pas aidé à maintenir la sécurité et la stabilité. L'Iran et le Pakistan, en tant que deux voisins les plus importants et les plus efficaces de l'Afghanistan, doivent jouer leur rôle en interagissant et coopérant. À cet effet, la République islamique d'Iran se félicite des coopérations avec le Pakistan et l'Afghanistan, a-t-il précisé encore. Toujours, le président Rouhani a évoqué les accords antérieurs entre les deux pays pour étendre la coopération avant de souligner la nécessité de mettre en œuvre et de rendre opérationnels les accords déjà conclus. Il a également fait part de la disponibilité de la République islamique d'Iran à répondre aux besoins énergétiques du Pakistan. Pour sa part, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a qualifié les relations avec la République islamique d'Iran d'unique et précieuse et fraternelle et a insisté sur le renforcement et la consolidation des relations bilatérales dans tous les domaines, faisant référence à l'accent mis par le Premier ministre pakistanais Imran Khan sur le développement des relations avec l'Iran, le chef de la diplomatie pakistanaise a exprimé l'espoir que dans un proche avenir, les relations bilatérales entreront dans une nouvelle phase et connaîtront de nouvelles ouvertures dans le développement des relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines commercial et économique. Il a également salué le soutien de l'Iran au Pakistan sur la scène régionale et internationale avant de réaffirmer le soutien d'Islamabad au plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien. Yémen, les drones d'Ansarallah visent la base aérienne du roi de Khaled. Les forces armées yéménites ont affirmé mercredi soir avoir lancé une attaque aux drones contre la base aérienne
statues de roi Khaled à Khamis Mouchad, situé au sud de l'Arabie Saoudite. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari, a précisé qu'une position militaire importante dans la base aérienne du roi Khaled à Khamis Mouchaït avait été visée par les drones Qassef K2. L'opération a été accomplie avec succès, a souligné le général Sari, réitérant qu'il s'agit d'une riposte aux frappes aériennes de la coalition d'agression saoudienne ainsi qu'au blocus imposé contre le Yémen. Mardi, l'aéroport saoudien d'Abha a été également visé par une attaque au drone. Il convient de noter que la plupart des avions de combat qui participent aux raids aériens menés par l'Arabie saoudite contre le peuple yéménite décollent depuis l'aéroport d'Abha et de la base aérienne du roi Khaled à Khamis Mouchaït. L'armée israélienne reconnaît la défaite de sa DCA. L'armée israélienne a reconnu l'échec de sa DCA à intercepter le missile tiré depuis le territoire syrien lors de l'attaque balistique contre l'installation nucléaire de Dimona. Les enquêtes préliminaires sur le tir de missile sol-air depuis la Syrie vers Israël montrent que le missile n'a pas été intercepté, a déclaré sur son compte Twitter le porte-parole arabophone de l'armée israélienne. L'armée israélienne, citée par Al Jazeera, a prétendu à cet égard que la roquette avait explosé dans le ciel et que ses fragments s'étaient dispersés dans la région du Negev. Selon le rapport, l'armée israélienne a également annoncé que les enquêtes sur le missile tiré depuis la Syrie étaient toujours en cours. Le correspondant de la chaîne d'information Al Arabiya rapporte que l'armée israélienne a échoué à deux reprises à intercepter des missiles. La chaîne Sky News a également rapporté que le ministère israélien de la guerre enquêtait sur la cause de la défaillance des systèmes de défense près des installations de Dimona. L'armée israélienne a estimé que sa DCA avait tiré des missiles contre le missile syrien, laissant un doute sur la réussite de l'opération. Abdul Bari Atfan, le rédacteur en chef du journal en ligne Raya Al Yaoum, a évoqué la frappe balistique contre l'installation nucléaire de Dimona, précisant que la patience stratégique de la résistance était arrivée à bout. Le tir de missile contre Dimona annonce le début d'un changement des règles du conflit. Cette tentative annonce l'effondrement de toutes les anciennes équations, a-t-il écrit dans un tweet. Il semble que la patience stratégique de la résistance soit terminée. Le dôme de fer s'est avéré inefficace. Ceux qui ont vu la fuite des colons effrayés vers les abris comprennent ce que nous disons. La résistance répond et le temps de ressusciter notre dignité est arrivé, a-t-il souligné encore. Les troupes US en tenaille entre l'Irak et la Syrie. Le scénario irakien est repris acte par acte en Syrie, alors que certaines informations font état de l'intention des États-Unis de redéployer leurs troupes expulsées d'Irak enlisées en Afghanistan sur l'est de l'Euphrate. Une deuxième attaque contre un convoi logistique US vient de se produire à Deir ez-Zor. Des sources locales dans l'est de la Syrie ont fait part d'une attaque contre un convoi militaire affilié à l'armée américaine. Une attaque à la roquette menée par des individus inconnus a été suivie par des affrontements avec des armes légères. L'armée américaine n'a publié aucun bilan sur le nombre d'éléments tués. Le convoi américain a été pris pour cible alors qu'il traversait la ville d'Al-Basira dans l'est de la province de Deir ez-Zor. Selon des sources, des éléments kurdes des forces démocratiques syriennes affiliés aux États-Unis ont été transférés dans des hôpitaux de campagne. Ils ont été blessés lors des affrontements avec des inconnus alors qu'ils encerclaient le centre de l'attaque. Ces attaques interviennent alors que les habitants de l'est et du nord-est de la Syrie s'opposent fermement à la présence des forces américaines et de leurs alliés dans la région. Vladimir Poutine a promis mercredi à ses rivaux occidentaux une riposte dure en cas de provocation. L'allocution et ses actions de protestation interviennent en pleine tension russo-occidentale sur le sort de cet opposant emprisonné et en grève de la faim, mais aussi d'un déploiement militaire russe très important aux frontières de l'Ukraine. Le président russe a quant à lui, dans son grand discours annuel, adressé une mise en garde à ses adversaires étrangers avec lesquels il croise le fer sur de multiples dossiers. Les organisateurs de provocations menacent notre sécurité, le regretteront jamais. Ils n'ont eu à regretter quelque chose, a prévenu le président russe Vladimir Poutine. J'espère que personne n'aura l'idée de franchir une ligne rouge, a-t-il encore dit, promettant une riposte asymétrique, rapide et dure. Il a comparé les Américains au tigre en fait du livre de la jungle entouré de chacals hurlants. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
à qui Téhéran